Merci d'être venu pour assister à cette SUMEI plénière de l'AFS 2015. La SUMEI plénière s'intitule « Vers une dénaturalisation du genre, de la sexualité et de la famille » avec un point d'interrogation. Cette SUMEI plénière est co-organisée par trois réseaux thématiques de l'AFS. Le RT24, genre, classe, race, rapports sociaux et construction de l'altérité. Le RT28, recherche en sens social sur la sexualité. Et le RT33, famille, vie privée, vie publique. Les trois RT sont représentés ici aujourd'hui par moi-même, donc Salima Amari, docteur en sociologie, Université Paris 8 et CRESPA GTM. Je représente le RT24. Ici présente Gilda Charrier, MCF, Université de Bretagne Occidentale, la Berce, qui représente le RT33. Et Virginie Barus, professeure en démographie, Université Paris 1 Sorbonne, CRIDUP, qui représente le RT28. Donc merci pour elle d'avoir participé à l'organisation de cette semi-plénière. Cette table ronde se propose d'interroger les conceptions de la famille aujourd'hui en France en termes de rapports sociaux, de sexe et de genre, à l'aune des débats publics lors du vote de la loi relative à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. Dans quelle mesure le débat autour du mariage pour tous remet-il en cause la place constitutive de la différence des sexes dans le fondement de la famille? Comment une telle conception redessine-t-elle le lien entre mariage et droit reproductif? Il paraît pertinent de porter une attention particulière à la diversité des modèles familiaux qu'aurait révélé et ramené sur le devant de la scène publique les débats qui ont eu lieu. Il s'agira en outre de rendre compte des types de résistance, de dérogation à la norme dominante, dont relèvent ces modèles familiaux, ainsi que la redéfinition de la famille qu'ils impliquent. Alors, pour essayer de répondre à certaines de ces questions et de participer au débat actuel sur la question, nous avons le plaisir et la chance de recevoir trois intervenants. Irène Théry, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, Centre Norbert Elias. Monsieur Éric Fassin, professeur, Université de Paris 8, l'EGS, et Louise Desjean, doctorante à l'Université Paris-Descartes, laboratoire CIRLIS. Nous avons donc Virginie Descouture qui s'excuse auprès des organisateurs, des organisatrices et de vous pour son absence. Donc elle a eu un impératif très important. Pour le déroulement de la séance, donc nous allons dans un premier temps écouter les trois intervenants. Ensuite, on va vous donner la parole donc, pour la salle, pour les questions et débats. Tout d'abord, nous allons écouter Louise Desjean pour son intervention intitulée « Architecture d'une révolution anthropologique selon les militants et sympathisants de la Manif pour tous ». À vous.
Alors, oui, vous voyez, c'est bon. Donc, deux mots avant de commencer, juste pour situer cette communication qui s'inscrit dans une recherche qui est en cours, une recherche doctorale. Ma thèse, en fait, elle vise à comprendre et à éclairer les discours et les prises de position défavorables à l'entrée en droit de la parentalité homosexuelle en France. Dans ce cadre, je conduis des entretiens semi-directifs avec des individus qui sont majeurs et qui résident tous sur le territoire français, défavorable aux récents changements institués par la loi Taubira, que ces prises de position soient formulées dans l'espace public ou dans l'espace privé. Au sein de ces entretiens, un premier échantillon de personnes sont des militants ou des sympathisants de la Manif pour tous. Alors, ce cadre d'analyse posé, je souhaite aujourd'hui centrer cette communication sur la réutilisation stratégique par la Manif pour tous d'une discipline des sciences sociales. Depuis que le débat sur le mariage pour tous a surgi au printemps 2012, on a pu observer des définitions distinctes de l'anthropologie se confronter dans les divers médias. Donc la question qui se pose alors, c'est qu'est-ce que signifie tout simplement l'utilisation de ce domaine d'études et quelle valeur lui accorde-t-il? Déjà, lors des controverses suscitées autour de ce qui allait devenir en 1999 le pacte civil de solidarité, le PACS, Éric Fassin, ici présent, s'étonnait du fréquent recours à l'expertise anthropologique de la parenté au sein du débat politique. Aujourd'hui et plus que jamais, le collectif emprunte au vocabulaire des sciences sociales, lequel est d'ailleurs fréquemment repris par ses enquêtés. Scientifiquement performative, la notion d'anthropologie présente en fait un caractère de légitimité qui est dans le champ académique, en fait, qui fait foi, qui fait preuve, et qui permet d'emmener le débat hors du champ politique. Si elle est utilisée comme argument d'autorité par les opposants au mariage pour tous, parce qu'elle leur permet en fait d'assumer des revendications sur un terrain idéologique, elle n'est cependant étayée par aucun fondement théorique ou empirique qui soit véritablement établi. Comme le signalent d'ailleurs Jérôme Courduriès et Agnès Fine à propos de l'utilisation de la notion d'anthropologie, c'est un terme, je cite, « essentiellement utilisé par des non-spécialistes de la discipline, le plus souvent par des idéologues chrétiens ». Or, après une première analyse des entretiens effectués, je suis arrivée à un principe de saturation assez évident, me forçant à admettre l'importance de la variable du religieux au sein de cet échantillon. En effet, sur mes 25 enquêtés, 23 sont de confession catholique et pratiquent de façon régulière cette religion. Alors, du point de vue des enquêtés de cet échantillon, les récents changements institués par la loi Taubira rompent avec une certaine conception naturaliste de la famille et introduisent une véritable révolution anthropologique, voire une rupture ou une déconstruction, selon les termes employés, dont je vais tenter ici d'expliciter rapidement l'architecture. Alors, la discipline anthropologique est ici en fait détournée de façon à dessiner une vision normative et unitaire de l'humanité, s'inscrivant par ailleurs dans une perspective qui est largement familialiste. Pour le sociologue Michel Chauvière, le familialisme est une véritable idéologie politique. Depuis la Libération, celle-ci participe de l'établissement d'une politique familiale réalisée à travers différents champs, politiques, religieux, etc., et qui concourent tous à l'institutionnalisation d'une vision dominante de la famille, a fortiori de l'ordre social. Les enquêtés ont en effet tendance à fortement valoriser, voire surestimer, l'importance de l'institution familiale qu'ils envisagent comme le fondement majeur de la société. J'ai quelques extraits d'entretien, en fait, tout au long. Il faut donc pouvoir entourer cette famille de protection, et la Manif pour tous ne se préoccupe pas seulement de la question de l'homoparentalité et du mariage pour tous, mais par exemple, elle dénonçait la modulation des allocations familiales selon le revenu, et c'est un discours qui est revenu aussi dans la bouche de certains enquêtés. Par ailleurs, l'ancrage de la religion catholique dans leur discours est souvent visible et semble notablement orienter cette conception particulière du religieux. En effet, la valeur sociale et morale donnée à la famille est sensiblement imprégnée de la doctrine de l'Église catholique, pardon, dont le discours traduit la volonté de préserver un hégémonisme familial sur toutes les autres formes de la vie sociale. Jean-Paul II disait par exemple de la famille qu'elle reste la première société humaine. Et le sociologue Rémi Lenoir, lui, disait que l'Église est familialiste par définition. Donc en ce sens, l'institution familiale est pour ses enquêtés véritablement érigée au rang de pilier de l'ordre social. C'est pourquoi modifier sa structure est préjudiciable à la stabilité de la société française, voire du monde occidental dans son ensemble. Cependant, pour l'anthropologue Maurice Godelier, la famille, si évidemment elle demeure toujours une institution majeure de la vie sociale, n'a jamais constitué le fondement des sociétés humaines. Selon lui, c'est le sacré, c'est la dimension politique religieuse qui, de tout temps et dans toutes les sociétés, ont toujours occupé cette place prééminente. Donc ce que nous apprend à ce sujet la position de l'anthropologue, c'est qu'à la source de cette controverse, en fait, réside plutôt des malentendus inhérents à des définitions distinctes de la famille. Pour nos enquêtés, a fortiori pour l'Église catholique, la famille est la première société dite naturelle, représentée par le père, la mère et les enfants nés du couple incarnant cette différence des sexes. Non seulement la famille occupe une place centrale, mais la définition de cette dernière se limite à la seule norme conjugale hétérosexuelle, le système de parenté cognatique occidental, et refuse de considérer une conception qui serait davantage relativiste et qui impliquerait la prise en compte de la diversité des formes familiales existantes. Essentialiser le concept de famille, c'est en donner une définition absolue, sans tenir compte de sa pratique effective et des différentes structures de parenté par lesquelles elle se réalise effectivement. Nous ne devons pas, nous dit le pape François, tomber dans le piège d'être définis avec des concepts idéologiques. Celui-ci affirme en effet, je cite, que la famille est un fait anthropologique et par conséquent un fait social de culture. On ne peut pas parler aujourd'hui de famille conservatrice ou de famille progressiste, la famille est la famille. Donc le déni d'historicisme ici opère et le concept de famille chrétienne devient alors une réalité en soi. Comme le remarquait encore déjà Éric Fassin au début des années 2000, l'héritage structuraliste de la discipline anthropologique ne semble ni neutre ni anodin dans la place et dans la fréquence des appels donnés à son expertise au sein du débat public et politique. au-delà même du discours avancé par la Manif pour tous, effectivement, ça va au-delà même du discours avancé par la Manif pour tous, parce que j'ai aussi réalisé des entretiens avec des personnes qui ne participent pas à la Manif pour tous et qui ont cette idée-là. L'anthropologie, selon les opposants au mariage pour tous, ambitionne de mettre au jour les universaux de la condition humaine et d'observer les récurrences fondamentales qui formeraient l'essence de l'humanité. Lors d'un débat sur le mariage pour tous le 28 janvier 2013 sur la chaîne de Radio France Culture, Paul Thibault, qui est un philosophe, distinguait par exemple les disciplines ethnologiques et anthropologiques. La vocation de l'ethnologie serait l'étude des peuples, alors que l'anthropologie serait, je cite, un projet général d'aborder l'humanité à travers toutes les recherches ethnologiques. Donc un peu plus de 10 ans après les premiers débats autour du PACS, les termes de l'incompréhension relative à la définition de l'anthropologie ne semblent pas avoir véritablement évolué. Plus encore, la discipline a vocation à servir des intérêts partisans. Dans une lettre écrite à Éric Fassin en 1999, Claude Lévi-Strauss disait d'ailleurs que l'éventail des cultures humaines est si large, si varié, d'une manipulation si aisée, qu'on trouve sans peine des arguments à l'appui de n'importe quelle thèse. Et justement, les enquêtés ont tendance à largement utiliser, à citer Claude Lévi-Strauss pour appuyer leurs arguments. En faisant fi des aspects culturels, cette anthropologie s'inscrit dans la justification d'une sociodicée conservatrice. Elle aurait donc plus trait au dogme qu'à la nature évolutive et réflexive qu'exige la pratique des sciences sociales. D'autant qu'un des principes fondamentaux de la discipline anthropologique consiste justement dans la seule observation et analyse de la diversité des cultures et conventions sociales existantes. S'il est bien évidemment illusoire de se départir entièrement de ses préconceptions et de ses représentations vis-à-vis d'un objet d'étude, l'énonciation d'un jugement normatif, lui, normalement, est exclu de la pratique anthropologique. D'autre part, la cohérence idéologique des discours de ces enquêtés tient à une hybridation en fait, des arguments religieux d'une part et biologiques d'autre part, s'établissant en référence au mythe judéo-chrétien de la création, comme on peut le constater à la lecture de cet entretien. Issue du livre de la Genèse, la cosmogonie d'inspiration judéo-chrétienne révèle Adam et Ève comme le couple originel créé par Dieu au fondement de notre humanité. La théorie de l'évolution, elle prendra son essor au XIXe siècle. Et si son existence datait déjà depuis plusieurs siècles, elle fut réellement impulsée par l'œuvre fondatrice de Charles Darwin, qui pose pour la première fois le terme d'évolution et situe l'origine de la vie au travers d'explications scientifiques. Ne se conformant pas à la vision de l'histoire offerte par les écrits bibliques, son histoire évolutive des espèces vivantes provoque alors, et depuis ses débuts, une certaine méfiance de la part de l'Église catholique. Plus encore, celle-ci a longtemps nourri une attitude de défiance globale à l'égard du développement d'un esprit scientiste et rationnel issu du siècle des Lumières. Traditionnellement, en effet, on a eu tendance à situer la croyance religieuse et le développement de la science dans la logique d'un rapport antagonique, à l'image des tenants de la doctrine créationniste, par exemple, qui s'opposent radicalement, eux, à la théorie de l'évolution des espèces. Et en proclamant le triomphe de la raison sur la croyance religieuse, le principe de laïcité à la française a, depuis la Révolution, semblé rigidifier cette incompatibilité idéologique entre, d'une part, la religion et, d'autre part, la science. Néanmoins, l'étude des propos qui sont tenus par les militants et les sympathisants de la Manif pour tous révèle que la croyance religieuse est finalement bien loin d'être inconciliable avec la pensée évolutionniste et scientifique de manière générale. Il suffit de se rappeler pour ça les slogans qu'on a beaucoup entendus pendant le débat sur le mariage pour tous de la part du collectif. On se souvient de « pas d'ovule dans les testicules », de « tous nés d'un homme et d'une femme », par exemple. Et ces slogans, ils sont destinés à rappeler les fondamentaux biologiques que nous a offerts au cours du temps la compréhension scientifique de notre environnement. Moderniste, cette perspective religieuse ne tombe pas pour autant dans l'écueil scientiste, et reste fidèle au principe de l'inhérence biblique. Parce qu'en fait, la position de l'Église catholique, elle a progressivement évolué dans le sens d'une reconnaissance de plus en plus affirmée de la pensée évolutionniste, sans pour autant remettre en cause les fondements créationnistes du mythe judéo-chrétien. Donc c'est un paradoxe, mais qui en fait est seulement apparent, dans le sens où il se résout en considérant que c'est l'esprit et non la matérialité du corps qui est le fruit de la création directe de Dieu. Donc, dans ce même ordre d'idées, l'évolution des espèces peut également être inféodée strictement à la volonté divine. Les avancées scientifiques ne semblent donc pas avoir mis à sac les principaux fondements de la doctrine créationniste et participent de la simple distinction, et non de l'opposition, établie aujourd'hui entre les concepts de science et de religion. D'autre part, on peut penser que la forte inclination des enquêtés à mettre au centre de leur discours l'importance de la notion de vérité biologique procède d'un contexte social ayant tendance à sinon valoriser, du moins rappeler l'importance des liens génétiques ou biologiques. En effet, notre société occidentale sécularisée offre aux schèmes biologisants une place prépondérante dans l'appréhension et dans la compréhension de la vie sociale. Ce que la multiplication des querelles qui s'engagent autour de la définition de la parentalité aujourd'hui exprime d'ailleurs fortement. Les liens sociaux qui se tissent et unissent les membres d'une même famille priment-ils sur ceux de nature biologique ? Existe-t-il toujours dans la filiation quelque chose qui soit d'une essence culturelle ? La famille serait-elle à voir comme un fait social ? Ça, ce sont des questions qui reviennent fréquemment dans le débat. Et dans le même temps, on assiste à un retour de la problématique biologique, avec notamment les controverses qui entourent la question de l'anonymat des dons de gamètes. Des associations, par exemple, qui réunissent des enfants nés des techniques d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneurs, réclament aujourd'hui le droit d'accès à leurs origines personnelles. Également révélatrice est la volonté de nombreuses familles homosexuelles de vouloir recourir aux techniques d'AMP de façon à assurer une filiation qui soit de nature biologique. À l'heure où la famille homoparentale est désormais institutionnalisée et qu'on accorde de plus en plus d'importance à la valeur sociale des liens de filiation, ces débats sont en effet plus que jamais d'actualité et ils sont à la source de questions inépuisables. Et si elles sont de résolution si complexe dans le champ du politique, c'est parce que la reconnaissance institutionnelle de la dimension sociale et de la dimension volontaire de la parenté ne traduit en rien une dévalorisation des liens de nature biogénétique. Nos familles occidentales semblent très loin de minimiser l'importance donnée à la vérité biologique. Elle est même élevée parfois au rang de véritable idéologie du sens, selon les termes de Agnès Fine et Agnès Martial dans un article qu'elles avaient publié. Et son influence dans les représentations de la parenté est très anciennement ancrée dans nos sociétés, malgré l'idée qui est souvent relayée d'un essor récent. Elles nous disent d'ailleurs que depuis l'Antiquité, les cultures occidentales attribuent une importance non négligeable aux liens dits naturels. Alors, une fois admise la polysémie du terme anthropologie, justifiant chez ses enquêtés la permanence d'un ordre biologique naturel, il a semblé intéressant d'aborder de nouveau cette discipline pendant l'entretien, mais cette fois selon la définition donnée par les sciences sociales aujourd'hui. C'est-à-dire que pour mener cette redirection, il leur a été demandé de commenter les propos de l'anthropologue Maurice Godelier, qui sont parus le 13 janvier 2013 dans le journal Le Monde. Et celui-ci disait alors, en plein débat sur le mariage pour tous, je cite, que l'humanité n'a cessé d'inventer de nouvelles formes de mariage et de descendance. Sous-entendu, les systèmes de parenté sont multiples. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le nôtre, qui est fondé sur le modèle bioconjugal, serait nécessairement le meilleur ? Et pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas évoluer ? À ce moment-là, il a pu être relevé de façon récurrente un discours inspiré du modèle évolutionniste, appliqué ici aux questions de parenté et au sein duquel s'est justement longtemps inscrite la discipline anthropologique. Cette dernière, comme justement nous l'explique Maurice Godelier, est considérée comme une véritable discipline scientifique seulement depuis la seconde moitié du 19e, alors qu'un travail de décentrement nécessaire par rapport aux catégories culturelles occidentales commença à être opéré par les ethnologues. C'est cette ouverture à la relativité culturelle qui a permis aux premiers ethnologues d'envisager leur cohérence particulière et de reconnaître la logique des autres systèmes de parenté dans leur spécificité. En ce sens, ces derniers sont autres, mais ils ne sont pas moindres. Le décentrement culturel implique donc une recherche de déprise de soi qui est propre à assurer la tenue d'un travail scientifique. C'est une posture, on le comprend, qui est évidemment peu évidente et qui est loin d'être adoptée par ces enquêtés, dont le discours se teint souvent d'un évolutionnisme latent. Ce modèle, dans sa traduction culturelle et sociale largement diffusée dans la seconde moitié du 19e, envisage l'évolution des sociétés humaines comme ordonnée par la rigidité de lois de l'histoire, ces dernières inscrivant l'humanité dans une visée progressiste, menant dans sa forme la plus aboutie à notre société moderne occidentale. Cette logique historiciste introduit en fait une hiérarchisation des civilisations, qui est aujourd'hui fermement condamnée par les sciences sociales dans leur très grande majorité. Sauf que, ironie de l'histoire, la discipline anthropologique est aussi réutilisée aujourd'hui dans le débat public par des personnes qui ne semblent pas s'être affranchies d'une certaine approche évolutionniste de la culture. Nombreux sont les enquêtés à s'inscrire dans la perspective idéologique d'une évolution progressiste des sociétés humaines. À son origine, elle est d'inspiration darwinienne. Ce modèle évolutionniste est surtout inféodé au domaine biologique à travers lequel il s'est initialement constitué. Même si dans son acception anthropologique, elle emprunte davantage à la philosophie, on pourrait voir dans ses discours la transposition de la théorie de la sélection naturelle à l'évolution des sociétés humaines, comme on peut le constater dans cet extrait d'entretien. Selon ce modèle, si certaines sociétés disparaissent tandis que la nôtre demeure, c'est tout simplement parce qu'elles n'étaient pas suffisamment avancées dans l'échelle hiérarchique des civilisations et qu'elles étaient inévitablement vouées à disparaître. Par ailleurs, et hormis quelques enquêtés, le recours à une pensée évolutionniste s'inscrit ici encore dans un argumentaire qui est inspiré de l'héritage républicain, et cet héritage républicain modifie considérablement ce discours. Celui-ci procède d'une intériorisation des principes fondamentaux du pays des droits de l'homme et de la laïcité, lesquels sont naturellement étendus à l'ensemble des sociétés humaines. D'une part, et quitte à introduire une rhétorique qui est un peu périlleuse parfois, l'accent est souvent mis sur la nécessité de ne pas émettre de jugement de valeur quant aux autres structures de parenté existantes, tout en valorisant celles modernes occidentales. D'autre part, lorsque le modèle évolutionniste est désormais évoqué, c'est dans le sens d'une affirmation de la vérité biologique qu'il s'impose logiquement. Ces sociétés traditionnelles extra-européennes n'assureraient pas les conditions optimales au développement de l'enfant parce qu'elles ne bénéficient pas encore des connaissances que nous offre aujourd'hui la compréhension scientifique de notre environnement. Leur retard, que le manque de savoir quant aux racines biologiques des individus implique, représenterait alors un obstacle qui est majeur à leur équilibre. Et là, dans ce passage, dans cet extrait d'entretien, on remarque par exemple qu'en fait, il compare les structures de parenté extra-européennes traditionnelles aux cas d'adoption qui sont existantes dans nos sociétés. Pour lui, c'est à mettre sur le même plan. Donc en fait, il existe un cadre symbolique variable d'une société à l'autre et qui suppose une appréhension différente du réel. Mais le poids du culturel et du symbolique dans la formation diverse des structures de parenté selon les sociétés est ici dénié au nom de l'évidence de la vérité qui est donnée par la nature et selon une pensée qui ne parvient pas à s'affranchir de l'ancienne dichotomie opposant tradition et modernité. En ce sens, et du coup en marge d'un évolutionnisme anthropologique rénové, on peut aussi considérer la simple volonté pour ces enquêtés de conserver les acquis, qui sont ici énoncés au sens de progrès, de l'histoire occidentale, dont la famille est pour eux un élément majeur. Et c'est d'ailleurs un discours qui est, qu'on retrouve dans le discours, enfin dans les propos officiels de la Manif pour tous, comme on peut le constater ici dans ce discours de Lionel Lombroso, qui est le porte-parole en fait de la Manif pour tous, qu'il avait tenu lors du Forum international pour l'abolition de la GPA. Il parle de progrès civilisationnel. Donc, pour terminer, justement, si les opposants au mariage pour tous parlent de la famille, eux, les anthropologues, parlent de structure de parenté au pluriel. Cette distinction lexicale introduit pour les premiers, donc pour les opposants au mariage pour tous, l'affirmation du système de parenté cognatique occidental, et pour les seconds, pour les anthropologues, la possibilité de considérer une diversité de modèles familiaux dégagés des considérations d'ordre hiérarchique. Or, pour certains enquêtés, cette nouvelle clé de lecture anthropologique engage en fait un débat d'initié qui requérant un niveau d'abstraction qui est impropre à satisfaire la solidité d'une pensée qui soit pragmatique et fondée sur les fondamentaux biologiques. La parenté, selon la définition donnée par ce que nous appellerons l'anthropologie des sciences sociales, est alors perçue comme une construction idéologique et artificielle détachée des contingences du réel. Ces enquêtés condamnent une véritable dérive intellectualiste, opposée à l'inverse au certain bon sens, voire bon sens populaire, tout dépend des enquêtés, dont serait doté le peuple français. Donc l'anthropologie est inscrite dans une posture savante, qui est condamnée fermement, elle est réprouvée au risque de créer une rupture démocratique dans la société. Paradoxalement, c'est ici qu'intervient l'argument exposé juste avant d'une anthropologie humaine, afin de défendre la permanence d'un ordre naturel et souvent également l'importance de conserver l'héritage historique et culturel qui modèle notre société depuis des milliers d'années. Donc en filigrane de ces discours, il semblerait en fait que les divergences d'opinion relatives à la définition de la parenté mettent en évidence un débat de nature idéologique ayant trait à la frontière existant entre deux modes d'interprétation majoritaire de la vie sociale, de la réalité sociale, est fondée d'une part sur une conception naturalisante, d'autre part sur une conception culturelle. Cette limite semble d'ailleurs excéder le clivage pouvant être entretenu entre les opposants au mariage pour tous ayant adhéré aux arguments et aux modes d'action de la Manif pour tous, et ceux qui s'en éloignent davantage. J'ai en effet, comme je le disais, conduit des entretiens avec des personnes qui n'ont pas souhaité participer à la Manif pour tous. Pour l'ensemble de ces enquêtés, la volonté d'institutionnaliser la parentalité homosexuelle serait symptomatique d'une tendance contemporaine à vouloir évacuer le réel. Et je constate d'ailleurs que c'est une clé, une lecture des termes du débat qui revient très fréquemment dans les discours, même si sous des formes plurielles, allant du risque de torsion de concept de, du concept de réel en psychanalyse jusqu'à l'essor de l'idéologie transhumaniste. À l'inverse, une importance trop considérable serait donnée au culturel, d'où les affrontements qui opposent ici la parenté biologique à celle sociale, supposant d'accorder le primat à l'une ou bien à l'autre. C'est cette dissociation que révèlent les débats sur l'homoparentalité et qui, selon Irène Théry, ne peut se résoudre qu'en admettant de considérer la diversité de ces positions parentales dans une acception qui soit relationnelle. Enfin, s'enfermer dans une explication exclusive du monde social risque d'engager un phénomène de clôture du sens en produisant une réflexion tronquée car n'envisageant que partiellement le réel. Voilà.
Merci beaucoup. La parole est à Éric Fassin pour sa communication intitulée « Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, du Pax au mariage pour tous ».
Merci beaucoup. Je remercie les organisatrices et organisateurs d'avoir mené à bien cette entreprise. J'ai ajouté un tout petit peu à la complexité d'organisation malgré moi, puisque je devrais partir un petit peu avant la fin et je m'en excuse. Je m'en suis déjà excusé auprès des participants, mais je suis cité à comparaître dans un procès que je n'ai pas envie de manquer, puisqu'il s'agit du procès en appel contre Manuel Valls pour ses propos sur les Roms. Je vais vous parler d'autre chose, je vais vous parler plutôt de ce qui se passe, y compris dans un congrès qui s'intitule « La sociologie, une science contre nature » et le fait que la question du mariage ou du Pax, évidemment, est au cœur de tout cela, puisque la sociologie et les sciences sociales, vous venez de le rappeler, sont au cœur de la discussion sur ce qui serait contre nature. Historiquement, bien sûr, c'est l'homosexualité qui est jugée contre nature. La question est de savoir, est-ce que les sciences sociales ont partie liée avec l'homosexualité, c'est-à-dire est-ce que la sociologie, l'anthropologie seraient devenues des sciences homosexuelles. Cette dénaturalisation du monde, qui est bien sûr aussi un enjeu historiquement pour le féminisme, on la retrouve à propos des questions d'homosexualité, on la retrouve à propos des questions raciales, et donc il n'est pas surprenant que la sociologie se retrouve prise à partie. Alors vous avez rappelé mon titre, et je vais effectivement, en un sens, prolonger ce qui vient d'être dit, puisqu'il sera aussi question d'anthropologie, mais peut-être en proposer l'archéologie avec l'avantage de l'âge, c'est-à-dire en comparant les deux controverses, celle sur le Pax, ça n'est pas seulement un avantage, bien sûr, en comparant la controverse sur le Pax à celle plus récente sur le mariage pour tous, parce que la question qui m'intéresse le plus, c'est contre précisément les arguments anthropologiques qui insistent sur ce qui ne change pas, mon travail porte principalement sur ce qui change, c'est-à-dire sur le fait que ça n'était pas gagné d'avance, ça n'était pas joué d'avance, et je le dis d'autant plus qu'ayant participé à cette controverse dans le cadre français, je n'avais pas forcément imaginé que les choses iraient aussi vite, et je prendrais une comparaison avec les États-Unis, où la Cour suprême vient de rendre une décision, alors que je suis également américaniste, c'est-à-dire que je travaille en partie sur la société états-unienne et que j'avais attentivement examiné ces questions dans les années 90 aux États-Unis, je n'aurais pas imaginé que ces transformations auraient lieu aussi rapidement. Donc, de manière générale, ce que je voudrais suggérer, c'est qu'on doit s'étonner de ce qui est en train de se passer et non pas trouver que c'est un aboutissement logique. Donc, on doit se demander comment se fait-il que ce qui était impensable soit non seulement devenu pensable, mais relativement banal. Donc, c'est une transformation du sens commun qui m'intéresse. Parce que je crois qu'aux États-Unis, en France, dans bien d'autres pays, bien sûr, c'est à cela qu'on vient d'assister. Donc cette transformation du sens commun va être l'objet de ma présentation. Et ça veut dire qu'il faut savoir de quoi on s'étonne. À la fin des années 90, beaucoup de gens s'étonnaient qu'on puisse défendre l'égalité des droits. Elle apparaissait peu populaire, dirons-nous. Et en particulier ici, je vais m'appuyer sur le travail qu'on a pu faire avec Daniel Borillo depuis cette époque. On avait publié également d'ailleurs avec d'autres un ouvrage en 1999 qui s'appelle « Au-delà du Pax ». Et on a publié récemment ensemble le dossier d'une revue aux États-Unis, « Contemporary French Civilization », qui s'appelle « Au-delà du mariage ». Donc c'est ce parcours commun aussi qui va être évoqué. Donc si on pense à cette évolution, la question c'est de quoi s'étonne-t-on ? Si à l'époque on s'étonnait surtout qu'il y ait des gens bizarres pour réclamer la pleine égalité des droits, aujourd'hui on s'étonne surtout qu'il y ait des gens bizarres pour s'y opposer. La bizarrerie a changé de camp, si vous voulez. Cette question est tout à fait légitime et bien entendu, elle m'intéresse, c'est-à-dire essayer de comprendre comment des gens bizarres dont je faisais partie pouvaient penser comme ils pensaient et comment des gens bizarres dont je ne fais pas partie peuvent aujourd'hui penser comme ils pensent. Mais on peut aussi renverser la question et se dire, en fait, ce qui demande à être compris, c'est pourquoi, à l'époque, il y avait, donc à la fin des années 90, pourquoi il y avait une telle opposition aussi large et pourquoi aujourd'hui, à l'inverse, le soutien pour l'égalité des droits est majoritaire dans l'opinion, c'est-à-dire comment cette question est devenue une question de gauche. Et en ce sens-là, je voudrais souligner combien, sur la période récente, on a vu que l'opinion publique avait changé, premièrement, mais que, deuxièmement, le discours public a changé, et en particulier celui des politiques. C'est-à-dire que la question du mariage est devenue clivante entre droite et gauche, ce qu'elle n'était pas il y a 15 ans. Il y a 15 ans, une partie très importante de la gauche était hostile à ces propositions. Donc, cette transformation, elle demande à être pensée, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, l'idée qu'aujourd'hui, le partage entre la droite et la gauche passe autour de cette question ? Je souligne d'autant plus cette question qu'à mon sens, elle ne parle pas seulement du mariage, elle ne parle pas seulement du mariage pour tous, elle parle de l'ensemble des relations entre droite et gauche. Pourquoi y a-t-il eu de telles mobilisations contre le mariage pour tous ? Mon hypothèse est qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui est clivant entre la droite et la gauche, eh bien, on peut comprendre que la droite se soit mobilisée, parce que sur quoi d'autre aurait-elle pu se mobiliser pour s'opposer au gouvernement socialiste ? Certainement pas sur la politique économique, certainement pas sur la politique d'immigration, certainement pas sur la politique à l'égard des Roms. Donc, s'il y a eu de telles manifestations dont on s'est beaucoup étonné partout dans le monde, je crois qu'il faut en chercher l'explication, non pas seulement en termes anthropologiques, dans quelque chose qui serait inhérent à la culture française, mais dans une histoire politique récente qui est, premièrement, le fait que cette revendication est devenue l'emblème de la gauche s'y est ralliée, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais que, deuxièmement, c'est le seul emblème de la gauche. Donc je voudrais maintenant préciser un peu l'analyse. Premièrement, autour effectivement du terme anthropologie, mais aussi de l'invocation de la culture. Lorsque, à la fin des années 90, on invoquait les fondements anthropologiques de la culture, eh bien, je crois que c'est quelque chose qui n'est plus tout à fait ce qu'on entend aujourd'hui. Et je voudrais préciser en quoi ça n'est plus tout à fait la même chose. En fait, ce qui s'est passé dans les années 2000, c'est qu'il devenait plus difficile d'invoquer les fondements anthropologiques de la culture, dès lors que, chez nos voisins, ces fondements avaient changé. Les Pays-Bas d'abord, en 2001, et ensuite nombre d'autres pays, au nord et au sud. Et donc, il était difficile de continuer de penser que l'interdiction du mariage pour les couples de même sexe, dès lors qu'elle était ouverte dans un nombre de pays de plus en plus grand, y compris des pays proches, qu'elle était une règle universelle. Qu'est-ce que c'est qu'une règle universelle qui est démentie quand on prend le train pour Bruxelles ? Cette transformation, ça a amené à prendre conscience du fait qu'on ne pouvait plus s'autoriser du fait que c'était impensable, puisque ça existait. Donc, quels pouvaient être les arguments opposés, à partir de là, à cette revendication? Comment pouvait-on garder l'anthropologie? Comment garder l'anthropologie, c'est-à-dire s'appuyer sur quelque chose qui paraissait solide, c'est-à-dire qui ne nécessitait pas de recourir à des propos homophobes, pour néanmoins refuser les droits égaux. Et c'est là qu'on voit une double modification. La première, c'est que la culture majuscule est remplacée par une culture ou une autre culture. Donc une culture minuscule. Non plus la culture anthropologique, mais notre culture, une culture particulière, l'identité nationale. Et on voit ici que l'idée qu'on ne touche pas à l'identité nationale est une rhétorique disponible dans les années 2000, qui, bien entendu, joue non seulement à propos du mariage, mais aussi à propos d'immigration et donc d'identité nationale. Donc c'est la première chose. Dès lors qu'on ne peut plus dire la culture universelle parce que les voisins ont changé, eh bien, on peut dire notre culture, nous ne sommes pas comme les autres. Ça, c'est un premier déplacement. Mais il y a un deuxième déplacement, c'est que le terme anthropologie, il change de sens. Il change de sens, c'est-à-dire qu'il se biologise de plus en plus. Autrement dit, on dit beaucoup moins la culture, mais on peut dire notre culture, ou bien on peut dire la nature. Parce que quand on trouve les arguments du style « pas d'ovules dans les testicules », on est assez loin de Claude Lévi-Strauss et on est assez près de la biologie. Ça veut dire que l'anthropologie a changé de sens. Donc la biologisation de l'opposition, elle est quelque chose qui est une transformation, c'est-à-dire que ça n'était pas là à la fin des années 90. On entendait très peu l'argument anthropologique au sens biologique, on entendait beaucoup plus l'argument anthropologique au sens la culture. Donc ce déplacement, je crois qu'on peut le comprendre par rapport à ce que j'ai rappelé, le fait que la culture anthropologique comme universelle n'était plus un argument utilisable dès lors que les variantes étaient facilement identifiables. Mais la deuxième modification, c'est pas seulement ce passage de la nature à la de la culture à une culture, pas seulement le passage de la culture à la nature biologique, mais c'est aussi le fait que ce passage est accompagné par la religion. Les entretiens qui viennent d'être présentés et les enquêtes qui viennent d'être présentées marquent l'importance du critère religieux dans cette affaire. Et effectivement, ce que je voudrais souligner, c'est que, à nouveau, ça n'était pas si visible il y a 15 ans. En particulier à l'époque, pour ma part, j'avais souligné combien l'Église catholique en France était restée discrète. Elle avait publié, à l'époque, un seul texte d'une page par la conférence des évêques qui s'opposait au Pax, certes, mais sans aucune référence proprement religieuse, en s'appuyant exclusivement sur les sciences humaines. Évidemment, c'est tout différent dans la période récente. On l'a vu avec la prolifération de textes produits non seulement du côté de l'Église catholique, mais aussi du côté du grand rabbin de l'époque, Gilles Bernheim. Même si, comme vous le savez, il y a une circulation que certains peuvent qualifier de plagiat, puisque, en fait, le grand rabbin empruntait beaucoup d'arguments à des discours catholiques, y compris à Béatrice Bourges, qui était remerciée dans son texte. Et donc, le grand rabbin, en fait, était d'autant plus audible d'un point de vue catholique qu'il reprenait à son compte des arguments catholiques, ce qui lui a valu, comme le souligne d'ailleurs Céline Béraud aussi, d'être cité par le pape, ce qui est une promotion pour un rabbin. Du moins, semble-t-il. Ce que la religion fait dans cette affaire, c'est en quelque sorte de sortir du placard. Parce que, bien sûr, la religion était hostile à l'égalité des droits à la fin des années 90. Néanmoins, elle n'avait pas besoin d'intervenir en tant que telle, puisqu'il y avait des arguments anthropologiques, des arguments culturels. C'est donc à partir du moment où ces arguments font défaut qu'elle est bien obligée de dire son véritable nom, si l'on peut dire. Et que fait l'Église catholique? Eh bien, on s'aperçoit que la théologie catholique dans les années 2000 se transforme. J'avais écrit sur ce sujet, et en particulier sur discours qui m'avait particulièrement ému du pape Benoît XVI, où il comparait le mariage aux forêts tropicales. Il pensait bien sûr au mariage hétérosexuel, qui est une espèce menacée, et donc il importait, disait-il, d'avoir une écologie humaine. L'argument de l'écologie humaine, vous le savez, joue un rôle très important dans la théologie catholique depuis les années 2000. Donc, cette conception écologique du mariage, elle repose sur l'idée qu'effectivement, il faut rabattre la question anthropologique sur la nature et sur une nature biologique, c'est-à-dire que de plus en plus, on s'aperçoit que le discours, et je ne vais pas le développer ici, mais je l'ai fait par ailleurs dans des articles, dans des revues de théologie, eh bien, ce que fait le pape, et alors même qu'il n'était pas encore pape, c'est-à-dire qu'il était encore cardinal Ratzinger, c'est de reformuler les vieux arguments sur la loi naturelle pour identifier la loi naturelle, qui était jusqu'alors la raison divine, aux lois de la nature, c'est-à-dire à une conception biologique. Autrement dit, Deus sive natura. Ce qui est une révolution théologique, puisque normalement, ce propos était contradictoire avec l'héritage catholique. Donc la naturalisation, ce n'est pas simplement une naturalisation des rhétoriques utilisées dans le débat public, mais c'est aussi une naturalisation de la théologie catholique. Comment fonder le refus de l'égalité des droits? Eh bien, si la culture fait défaut, il nous reste encore la nature. Et il suffit pour cela de considérer que la nature et Dieu ne font qu'un. Cette transformation, elle permet, je crois, d'éclairer une dernière mutation que je voudrais... Enfin, ça n'est pas la seule, mais en tout cas que je vais avoir le temps d'évoquer ici. Une dernière mutation qui concerne, dans les rhétoriques qui concernent donc le mariage pour tous ou hier le Pax, qui touche aux questions raciales. Pour ma part... J'étais frappé du fait que, dans le débat sur le Pax, les questions d'immigration jouaient déjà un rôle. Simplement, ce rôle était presque invisible. Lorsqu'on regardait, on l'avait écrit au tout début des années 2000 avec Daniel Borillo, les restrictions apportées au Pax, elles portaient principalement sur deux points. L'un, que tout le monde avait discuté et qui concernait la filiation, restrictions par rapport au mariage, bien sûr, mais l'autre qui concernait l'immigration. Et ce point-là a été très peu discuté à l'époque. Or, il y a un lien très fort entre les deux questions, c'est la filiation. C'est-à-dire que la filiation, dans le droit français, définit à la fois la famille et la nationalité. Donc, dire qu'on ne peut pas toucher à la filiation, ça n'est pas seulement dire qu'on ne peut pas toucher à la famille, c'est dire aussi qu'on ne peut pas toucher à la nation. Dans un contexte qui est celui que vous connaissez, où bien sûr la question de l'immigration et de l'identité nationale, je l'ai rappelé tout à l'heure, a pris de plus en plus d'importance. Si on compare maintenant avec les débats plus récents, on s'aperçoit que cette dimension racialisée, et lorsque je dis racialisée, je le dis dans un sens strict, ça n'est pas simplement parce que ce sont des étrangers, mais que c'est la possibilité qu'ils deviennent français, c'est-à-dire le refus de changer une définition par le sang. Donc la naturalisation de la famille, c'est bien sûr le sang. Donc qu'est-ce qui a changé de ce point de vue-là? Eh bien, c'est que les questions d'immigration et les questions raciales sont devenues explicites. Le premier amendement qui a été déposé contre le mariage pour tous portait sur la possibilité de restreindre l'accès pour les étrangers à ce mariage en considérant que ce serait un facteur d'immigration. C'était l'œuvre du regretté Henri Guénaud. L'autre élément sur le mariage et sa dimension raciale, c'est bien sûr le fait que Christiane Taubira a incarné la loi sur le mariage pour tous et qu'elle a, bien sûr, chacun le sait, été en butte à des attaques racistes. J'ajouterais que l'articulation entre la dimension sexuelle et la dimension raciale était très présente de multiples manières, y compris par le fait qu'il existe en France, aujourd'hui, deux lois Taubira, celle sur le mariage, mais aussi, bien sûr, celle de 2001 sur la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Donc la haine suscitée par Christiane Taubira, on ne doit pas l'imputer aux seuls homosexuels ou aux seuls homophobes. Cette mutation, cette racialisation de la question du mariage, on la voit aussi dans le fait que Christiane Taubira a été amenée à intervenir sur ce sujet dans le débat public. Et elle l'a fait précisément en réponse à une critique soulevée par un député des Antilles, M. Azéro, qui disait « ça n'est pas dans notre culture, en substance, ça n'est pas dans notre histoire ». Et elle a répondu en disant que, en fait, l'histoire de l'esclavage devait enseigner aux ultramarins que la liberté de se marier était importante. Donc il y a eu une bataille d'interprétation pour savoir si, en tant que noir, on devait s'opposer ou, au contraire, en tant que noir, soutenir cette forme d'égalité. Comme il me reste 30 secondes, je termine avec juste une question. C'est si, comme je vous le disais depuis le début, cette question aujourd'hui du passage à gauche du mariage pour tous me paraît importante. Ça n'est pas seulement pour parler du mariage, c'est parce que nous sommes à un moment où, lorsqu'on est de gauche, eh bien, on n'a pas l'impression que les choses aillent toujours dans le bon sens. Or là, on a un exemple tout à fait intéressant pour comprendre comment, parfois, en peu de temps, de manière inattendue, les choses peuvent basculer dans un sens qu'on avait pu juger désirable. Donc il y a des leçons à en tirer, c'est-à-dire premièrement le fait que les choses ne vont pas nécessairement dans un sens, donc le jeu politique est ouvert, mais qu'elles peuvent parfois même aller dans le sens que nous désirons, et donc il y a des leçons à en tirer si nous ne voulons pas nous résigner à l'idée que, puisque la seule différence qui existerait entre la gauche et la droite aujourd'hui porterait sur les questions sexuelles, eh bien, il n'y aurait plus rien après. Donc c'est dans l'espoir qu'il y ait quelque chose que je nous invite à réfléchir sur ces transformations inattendues, quoique désirées.
Merci. Donc, c'est au tour de Irène Thierry pour sa communication intitulée « Les métamorphoses de l'institution de la parenté face aux deux formes de naturalisation de la famille ».
Merci beaucoup. La question de la naturalisation dans la société, c'est une question qui est aussi ancienne que nos disciplines. Quand Marie Douglas dit « toutes les sociétés ont tendance à naturaliser leurs conventions », elle pense bien sûr à la façon dont, dès les débuts de l'école française de sociologie, mais aussi partout à la naissance de la sociologie, il y a l'idée, au fond, que une certaine idée de la nature humaine empêche de percevoir justement en quoi les sociétés humaines sont différentes des sociétés animales, parce que justement elles ne sont pas régies, on va dire, par le principe de causalité. Et donc cette question de la naturalisation, elle est très complexe. Et la façon dont on le prend dépend souvent de ce qu'on met en face de nature. C'est une façon simple d'essayer de voir les choses. Donc moi, ce que je mets très rapidement en face de nature, c'est pas culture, c'est pas naturalisme, constructivisme, c'est pas la volonté ou la biologie, c'est pas le corps ou le self. Ce que je mets en face de nature, comme m'y a enseigné Marcel Mauss, c'est l'institution. Je suis une sociologue de l'institution. Et je le suis devenu un peu par hasard, je suis tombée dedans en quelque sorte en étant par hasard sociologue du droit quand j'avais cherché il y a très longtemps une façon d'enquêter sur les transformations de la famille en rapport avec l'égalité des sexes. Quand on est sociologue du droit, on a conscience du fait qu'il y a une dimension de l'agir humain qui est très particulière quand on agit en tant qu'eux. Cette capacité d'agir en tant qu'eux qui est spécifique à une espèce parlante comme la nôtre. Et donc... depuis qu'il y a de la sociologie, c'est une question pour elle que de se développer dans une société qui a tendance à dénier son caractère social, justement, au sens son caractère institué. Alors ça n'est pas nouveau, c'était déjà le problème de Durkheim, c'était déjà le problème de Mauss, c'est ce que je connais mieux l'école française de sociologie que d'autres, mais cela dit, on retrouve des points communs chez Weber. Sur les domaines de la famille, la difficulté a été redoublée pour moi, puisque c'est au sein même de la sociologie que la notion d'institution a été très disqualifiée dans les décennies pendant lesquelles j'ai commencé mon travail. D'ailleurs, on parlait d'une désinstitutionnalisation de la famille, la fin de l'institution, etc. Et donc, pour moi, le problème est là. C'était d'essayer de d'être à la fois très à distance de ces représentations qui traversaient y compris ma propre discipline, et essayer de ne pas perdre mon fil, quitte à m'éloigner beaucoup des débats qui avaient lieu dans notre discipline, la sociologie. J'ai beaucoup travaillé avec les historiens, beaucoup avec les juristes, beaucoup avec les anthropologues, et bizarrement moins avec les sociologues, parce que justement, j'étais dans le sentiment d'être dans un contexte qui n'était pas favorable à l'idée que je me fais, justement, de la dénaturalisation, qui consiste à montrer le caractère institué de nos sociétés contemporaines. Alors, quand j'ai parlé des deux formes de naturalisation, c'est quelque chose qui est développé dans la conclusion de mon livre « La distinction de sexe », dont la conclusion porte sur l'égalité de sexe et le naturalisme familial, donc c'est bien le propos du livre, c'est de dire qu'il y a bien sûr la naturalisation biologique, mais finalement la forme contemporaine la plus importante de naturalisation, c'est-à-dire celle qui fait qu'on ne voit pas la dimension instituée, c'est une naturalisation psychologisante. Voyez que ça n'est pas la distinction. Et donc, on peut naturaliser par le psy comme on peut naturaliser par le corps. Voilà. De même, on peut naturaliser à gauche comme on peut naturaliser à droite. Ça n'a rien à voir avec les convictions qu'on a. Toutes les sociétés naturalisent leurs conventions, et nous aussi, et quelles que soient nos meilleures intentions progressistes. Il suffit pour ça d'oublier l'institution. Donc, moi, je suis prise, en quelque sorte, entre une extrême distance, presque une étrangeté à mes contemporains sur la façon de concevoir ces questions. Je me sens plus proche de Mauss, on va dire, que du RT33, ou de, j'en sais rien d'ailleurs,
24.
Bon. Enfin, je veux dire, je me sens un peu en écart, et j'assume ce caractère un peu dinosaure. Et puis en même temps, je travaille sur des sujets qui sont très contemporains et très chauds, et sur lesquels j'aime bien aller au contact, et sans craindre d'aller dans l'enquête sur des sujets qui sont très controversés, etc. Je publie aujourd'hui une page dans Le Monde sur la gestation pour autrui, dont le propos est justement de combattre la conception naturaliste de la maternité, portée par ceux qui considèrent que la femme qui porte un enfant en devient ipso facto la mère, que c'est la seule définition de la mère, c'est celle qui accouche, et qu'il n'y a aucune autre façon d'être mère, et que quand on accouche d'un enfant, même si on n'a pas voulu être la mère, on le sera quand même. Donc, vous voyez qu'on est vraiment sur des sujets chauds. Alors, la difficulté à laquelle on s'expose quand on est à la fois un pied, disons, dans une approche assez éloignée, très éloignée, et même qu'on cultive une approche éloignée des problèmes, tout en travaillant sur des sujets immédiats, chauds, brûlants, mais qui sont arrivés à nous, je ne les ai pas spécialement choisis, je ne me doutais pas même du tout que dans les années 60, fin des années 70, début des années 80, quand j'ai commencé à travailler, ce qui allait nous arriver. Ce à quoi on s'expose, c'est à ne pas être compris. Et j'ai fait très souvent cette expérience, je la fais encore, c'est pas seulement d'être contesté, c'est d'être contesté et pas compris à la fois. Il faut savoir assumer ce risque. Et pour moi, quand il m'arrive, ça arrive souvent, je vais en parler immédiatement, j'ai un petit point d'appui qui est mon auteur de prédilection, Marcel Proust. Bon, comme ça, un grand auteur peut vous aider dans les moments difficiles. Marcel Proust n'a pas du tout été compris. Alors, je ne veux pas me comparer à lui, hein, c'est mon guide. C'est ma référence, mon dieu à moi. Quand il a publié « À la recherche du temps perdu », les gens ont dit « Mais c'est quoi ce truc ?» etc. Bon, horreur. Et il a dit à son éditeur cette phrase qui m'est toujours restée « Je me suis efforcé de peindre les erreurs, tant pis pour moi s'ils les prennent pour des vérités. » Je me suis efforcé de peindre les erreurs, tant pis pour moi s'ils les prennent pour les vérités. C'est-à-dire que le narrateur de la recherche, c'est quelqu'un qui va d'erreur en erreur. Et depuis que la recherche a été publiée, les gens prennent pour argent comptant ce que dit le narrateur, c'est-à-dire la succession des erreurs. Donc, Marcel Proust est dit, tant pis pour moi. Eh bien, je trouve que le principe, tant pis pour moi, est un principe important, c'est-à-dire qu'il faut accepter, en tout cas, moi, j'essaie de l'accepter sous la forme du tant pis pour moi, qu'il y a un coût à des choix importants qu'on a faits. Alors, ce coup, Éric Fassin me l'a souvent fait payer, et donc je suis contente de pouvoir dire quelque chose de ce point de vue en sa présence. Hein, parce que, quand même, il parle beaucoup de moi en mon absence, mais en ma présence, apparemment, il n'en a pas parlé. Donc, trois questions qui concernent notre sujet de la naturalisation. Je viens de publier, avec 25 collègues, un rapport « Filiation, origine, parentalité », qui propose à la fois une analyse des changements et aussi des préconisations. Donc on est dans, dans cette activité impure que certains, dans laquelle certains ne voudraient pas s'engager parce que, justement, on n'est pas dans la tour d'ivoire de la science, on s'engage sur des propositions. Et donc, dans ce rapport, beaucoup de choses sont traitées sur la filiation. Le sujet, c'est la filiation. Filiation, origine, parentalité, justement, le titre montre que un des grandes leçons de ce rapport, si on voudrait, c'est justement d'apprendre que une certaine forme de mise en lambeau de la forme de naturalisation s'était constituée au XVIIIe siècle au moment du Code Napoléon, des Lumières autour d'un ordre matrimonial de la famille, passe par justement des séparations entre des notions qui étaient inséparables. Et donc nous développons longuement, en particulier, le fait que l'assimilation entre filiation et origine a été pendant longtemps, très très longtemps même, un problème. Et qu'on avait beau dire la filiation, ça appartient justement à l'ordre institué, ça n'est pas de l'ordre des causalités, c'est de l'ordre des institutions. Il y avait cette assimilation. Et donc, un des points très importants à observer, c'est comment, à la faveur du développement de l'adoption, puis des procréations médicalement assistées, on a vu peu à peu se séparer, en quelque sorte, des notions et des perceptions qui étaient autrefois mélangées et inséparables. Et donc, ça a été, par exemple, les enfants adoptés qui ont dit, l'adoption n'a cessé de mimer la famille biologique. Sur la procréation médicalement assistée, on mime encore la famille biologique, mais moins. Et le débat porte sur jusqu'où allons-nous nous sentir obligés d'être toujours dans le mime de la procréation. Alors, je ne veux pas développer ça, je voudrais simplement dire que dans Au-delà du mariage, que Eric a cité tout à l'heure, comme un des propos de ce numéro, c'est quand même de dire que ce rapport, il faut quand même beaucoup s'en méfier. C'est les ordres, c'est les habits neufs de l'ordre naturel. Donc nous croyons essayer de contribuer à une forme de dénaturalisation, à la fois dans les faits par nos propositions. La preuve, justement, la France a été condamnée quand même en partie grâce à nous, puisque les juges de la Cour européenne sont beaucoup appuyés sur notre rapport pour étayer leur argumentation pour condamner la France qui refuse de la transcription des états civils d'enfants nés de GP à l'étranger. Nous proposons toute une analyse de la nature, de la naturalisation de l'ordre familial. Mais voilà que derrière nous, pas en face, derrière nous, arrive après la sanction. C'est encore peut-être pire quand on croit que vous êtes en train de dénaturaliser, mais en fait vous renaturalisez encore plus, habit neuf de l'ordre naturel. Premier exemple. Deuxième exemple, il n'y a pas longtemps, un peu plus en arrière, 2007, donc, je publie La distinction de sexe, un ouvrage qui est entièrement consacré au problème de la naturalisation de la différence des sexes. Et cet ouvrage, donc 700 pages, a été fait en particulier à travers un travail avec des anthropologues avec qui j'ai beaucoup travaillé pour acquérir un regard distancé. L'objet, c'est: peut-on avoir un regard distancé sur les mythes d'origine de l'Occident moderne ? Et j'essaie de montrer qu'il y a deux mythes d'origine à l'Occident moderne, c'est-à-dire d'un côté l'ordre où je poursuis dans la veine de Carol Patman, mais en allant plus loin sur le passage de la nature à la culture par un contrat social avec une place très spéciale faite à la famille. La famille, première des sociétés, la seule naturelle, dit Rousseau. Et puis un deuxième mythe d'origine qui prend le relais au XIXe siècle, à travers la psychanalyse, qui est le mythe d'origine de l'origine par l'interdit de l'inceste. Et tout l'objet du livre, essayer de, à partir d'un regard d'anthropologie comparée, de mettre à distance ces formes de naturalisation, à la fois des rapports sexuels, de la différence, de la distinction masculin-féminin, de la différence homme-femme, qui n'est pas la même chose, et de la place de la famille là-dedans. Éric Fassin rend compte de ce livre dans La Recherche, de façon très, très lapidaire, mais quand même d'une façon telle que ça vous dégoûterait d'aller y regarder même une minute, puisqu'on y explique que l'auteur, qui s'est opposé au Pax, etc., donc tout de suite ça donne une coloration, fait un ouvrage d'anthropologie religieuse à majuscule. Bon, alors déjà on se dit, bon, j'ai pas de temps à perdre avec a déjà les habits neufs de l'ordre naturel. Bon, je remonte encore un peu en arrière, bon, rapidement, mais je suis obligée de le faire. Au moment du Pacs et du contrat d'union sociale, j'ai eu la chance de pouvoir participer directement à deux débats très importants. Il y a eu un débat qui a été peu connu, mais qui est le débat le plus important, qui était un débat sur le couple. Il faut savoir, c'est écrit dans les textes, hein, mais peu de gens s'y sont intéressés, que le problème n'était pas si on était pour ou contre le Pacs, c'était qu'à l'intérieur de la gauche, une partie de la gauche ne voulait pas instituer en droit un couple de même sexe. Et en particulier, ne le voulait pas, la garde des Sceaux, comment elle s'appelait, Elisabeth Guigou. Donc, il s'en est ouverte, d'ailleurs, de façon très officielle, dans un rapport au Sénat. Et donc, peu de gens se sont intéressés à ce qui me paraissait absolument l'enjeu crucial de ce moment-là, qui était, est-ce que c'est Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, qui allait gagner, ou est-ce que c'est Robert Badinter, ancien garde des Sceaux, qui avait pris la plume pour un article « Les silences du Pacs » et qui ensuite, depuis sa place de sénateur, a mené la lutte pour imposer que le projet de loi soit modifié pour y inclure, justement, par le biais d'un amendement sur le concubinage, mais peu importe, la notion de couple de même sexe en droit civil français. On peut dire que c'est un bouleversement anthropologique. Le couple avait toujours été en droit depuis aussi loin que l'union d'un homme et d'une femme. Il peut devenir le lien de deux hommes ou de deux femmes. Et donc, je suis assez heureuse d'avoir pu participer à cette transformation qui avait été proposée dans un rapport que j'avais remis quelques mois avant. Donc, premier débat, mais très peu compris, le fait que les gens croyaient qu'il y avait les opposants et les pro-Pax, alors que de près, ce qu'on voyait, c'est que dans les pro-Pax, il y avait des pro-couples et des anti-couples, si on peut dire, de même sexe, vous voyez, et que c'était ça le plus important, puisque le Pacs, au fond, on a un peu oublié même son contenu, il a changé très rapidement, etc. Autre débat au même moment, celui qui concernait justement les raisons pour lesquelles il y avait ce débat sur le couple. C'est que, pour certains, à gauche ou à droite, un couple était nécessairement formé d'un homme et d'une femme, et c'était la position qui a été défendue de façon très claire par Tony Anatrella, qui représentait l'Église de France. Donc j'ai eu plusieurs conflits avec Tony Anatrella, et j'ai rendu compte de ces conflits, des conflits à la télévision, etc., dans un article publié avant le vote du Pacs, Pacs, sexualité et différence des sexes, dans lequel je démonte l'argumentation de Tony Anatrella, dont le cœur est « les homosexuels n'atteignent pas à la différence des sexes », et où je défends donc le fait que, sous le terme de différence des sexes, il ne faut pas confondre la différence des sexes avec l'hétérosexualité. La différence des sexes, telle qu'on l'employait, ou que l'emploient même les psychanalystes, d'ailleurs, ou que l'employait en sens social, en philosophie, je pense aux travaux de Geneviève Fraisse, etc., c'est au fond ce qu'on appellerait aujourd'hui le genre, si on va aller très vite, la différence des sexes, en tant qu'elle est une différenciation sociale et pas, justement, une différence biologique. Et donc, l'important, c'était de faire comprendre que les relations de même sexe étaient incluses dans ces constructions et qu'il ne fallait pas les réduire aux relations de sexe opposé. Donc, immédiatement, ça n'a pas été compris. Et au-delà du Pacs, donc, c'est une attaque en règle contre mon travail, principalement quand même, sur le thème naturalisation de la différence des sexes et réduction à l'hétérosexualité, au moment même où il était facile de lire que ma position consistait justement à critiquer ce qui faisait la confusion entre différence des sexes et hétérosexualité. Donc tout ça pour dire que moi, ce que j'essaye de faire depuis ce temps-là, c'est de continuer ma route, voyez, et d'essayer de ne pas... de supporter, il faut supporter, voilà. Et d'essayer de supporter le fait qu'il y a ce mixte entre une incompréhension que je crois profonde d'un certain type de travaux que moi ou d'autres faisons. Par exemple, ça nous paraît très important aujourd'hui que la distinction entre origine et filiation, que c'est très libérateur, que ça dégage justement d'un modèle pseudo-procréatif qui a été un des facteurs justement de l'impossibilité de ce modèle bioéthique français de s'ouvrir aux couples de même sexe, aux femmes seules, etc. Et en même temps, le fait que au moment même où nous menons ces discussions de fond ou ces bagarres politiques en tant que citoyens ou citoyennes engagées, eh bien, bizarrement, il y a cette espèce d'écho, hein, chaque fois que... mais non, pas du tout, c'est naturaliste, c'est encore plus naturaliste. Alors c'est pour ça que je m'étais dit hier, peut-être pourrais-je, pour donner un peu de peps au débat, envoyer aux participants ma page sur la GPA. Puis je me suis dit, oh là, si j'envoie ma page sur la GPA, ça veut dire qu'on aura une raison de plus de dire c'est une page naturalisante, biologisante, etc. Donc, je trouve que je m'arrête là. Je me débrouille avec ça depuis longtemps, depuis 15 ans, 16 ans, 17 ans, en essayant de garder ma route et surtout en essayant que... un point que nous avons d'accord, Eric et moi, c'est cette question du changement. C'est vrai que le changement, c'est... Oui, j'ai fini. Le changement... C'est la substance même de ce dans quoi nous sommes. Des choses qui n'étaient pas pensables deviennent pensables. Des choses qui n'étaient pas revendiquées deviennent revendiquées. Moi, je suis assez âgé, plus âgé qu'Éric, pour me souvenir du temps où personne n'imaginait que le mariage deviendrait une revendication. Dans ma génération, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire le mariage était vilipendé, ridiculisé, etc. Les travaux de Martine Gross sur l'homoparentalité montrent très bien, période par période, comment les appellations, par exemple, évoluent très vite et des choses qui n'étaient pas imaginables en 2000 deviennent tout à fait banales. Donc, de ce point de vue-là, on sera d'accord. Donc, ma question, au fond, est quand tout change, pourquoi une seule chose ne change pas ? Éric Fassin continue à me traiter d'hypernaturaliste.
Ok, merci. Donc, on donne la parole à la salle pour les questions. Et il y a micro.
Merci beaucoup pour toutes vos présentations. Moi, j'avais une question très simple et bête, je ne sais pas. Ah. Merci beaucoup. C'est bon, là ? Impeccable. J'avais une question pour Louise. Savoir, en fait, combien de personnes avaient ce bon sens populaire ? Combien il y avait ce groupe de nouveaux dieux ? Je reprends les jolis verbatims qu'il y avait dans la présentation. Combien ça représente de personnes ?
Oui. Voilà. Oui, vous pouvez répondre.
Si Eric doit partir, faut
bien. Ah oui, c'est vrai. Oui. Encore un quart d'heure. Donc d'autres questions, oui, on les prend. C'est mieux.
Merci pour vos présentations. Une question à Eric Fassin, puisqu'il doit s'en aller. Est-ce qu'il n'y a pas, dans un autre domaine, le mouvement inverse de ce que vous décrivez, à savoir biologisation de l'anthropologie ? Est-ce que... J'ai lu pas mal de travaux qui tendent à montrer qu'aujourd'hui, on passe d'un racisme de la race qui serait un racisme biologique à, ceux qui parlent d'islamophobie, hein, on passe d'un racisme donc biologique à un racisme qui serait un racisme culturel. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas dans un autre champ un mouvement inverse ou pas ?
D'autres questions ? Une autre question ? Vous pouvez répondre en attendant, peut-être il y aura d'autres questions qui vont venir.
Concernant le bon sens populaire, effectivement, j'ai fait 25 entretiens, ce qui n'est pas non plus exhaustif, dont dans ces 25, je continue là pour l'instant, mais dont dans ces 25, pour l'instant, deux qui font partie du collectif, enfin qui sont porte-parole du collectif, donc eux, forcément, ils ne vont pas avancer les choses exactement de la même manière. Mais sur ces personnes, alors il y a deux personnes qui ont spécifiquement avancé le terme de bon sens populaire, voilà. C'est celle dont les verbatims étaient sur le PowerPoint. Et sinon, en 5-6 personnes, après, c'est pas dit exactement de la même façon, mais c'est ce qui ressort effectivement que voilà, le débat s'intellectualise et arrive à un niveau d'abstraction tel que. Qu'on ne comprend plus rien et qu'il faut se recentrer sur justement cette naturalisation de la famille. Voilà.
Eric, vous pouvez répondre. répondre à la question.
Vous vouliez, vous vouliez répondre, enfin, poser la question d'abord ou...
Non, mais Eric, vous pouvez répondre.
D'accord. Mais juste brièvement là-dessus, vous avez tout à fait raison. Ce que je décris, ce n'est pas un mouvement de la société, mais des rhétoriques qui peuvent être mobilisées de manière changeante. Donc, de même qu'en matière de racisme, les rhétoriques peuvent changer assez vite, c'est-à-dire qu'on peut basculer d'un racisme biologique à un racisme culturel, mais que le racisme biologique revient très rapidement. Pardon de revenir sur la question Rome, mais je crois qu'on peut le mesurer. De même, la biologisation n'est qu'une stratégie rhétorique provisoire. Encore une fois, c'est une sorte de révolution, me semble-t-il, du côté de l'Église catholique, une révolution coûteuse. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit des mouvements cohérents. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de beaucoup m'intéresser à ces croisements entre questions sexuelles et questions raciales, parce que ça permet effectivement de non seulement dénaturaliser, mais de dénaturaliser la manière dont sont mobilisées les rhétoriques. Parce qu'on finit par croire que les conservateurs sont nécessairement du côté de la biologie, pas forcément. Donc je suis d'accord, pour dire plus simplement.
Il y avait des questions là. Oui, Armel, après.
Merci pour vos interventions. Je voudrais poser une question à Eric Fassin qui a évoqué la rapidité du changement, mais en montrant effectivement dans différents pays. Mais est-ce que vous pouvez identifier quelques facteurs ? Bien sûr, je sais qu'on ne peut pas totalement deviner, enfin analyser, mais est-ce que c'est le mouvement social ? Qu'est-ce qui se joue particulièrement ? Est-ce que c'est la même chose en France et aux États-Unis et dans d'autres pays ? Et par exemple dans un pays comme l'Espagne où, voilà. Et donc, quelles seraient les dynamiques que l'on peut identifier ?
Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'avais une question. Je voulais rebondir, en fait, sur la revendication du mariage et me demander si, finalement, quand on parle de changement, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur des changements des formes, mais pas véritablement sur un changement d'un principe de société, d'ordre social. Donc, voilà. Et une autre petite question sur l'aspect biologisation de la culture. Est-ce que vous étiez aussi intéressé à l'essor, à l'évolution, au développement de la psychologie évolutionniste ? J'en veux pour preuve un certain nombre d'ouvrages qui sont des best-sellers sur... qui avec des vulgarisations, des diffusions massives et qui sont plutôt du domaine de la psychologie. Donc, je voulais savoir si vous aviez des éléments là-dessus.
Une troisième question, peut-être, sinon. Ok, donc vous pouvez répondre. Si vous voulez.
Peut-être d'abord dans le désordre. En fait, je vais dire un mot sur la première partie de votre question. J'aurai rien de très intéressant à dire sur la psychologie évolutive, même si je pense que c'est effectivement très important. Évolutionniste, pardon, mais même si je pense que c'est très important. Sur le fait qu'effectivement, la critique a souvent été portée, moins souvent en France et plus souvent aux États-Unis, contre la revendication du mariage, qui serait normalisatrice, pour dire vite. Et tous ces arguments sont importants, intéressants, etc. Là, je parlais seulement du fait que c'était la présomption d'hétérosexualité dans les institutions sacralisées que sont le mariage et la famille. Voilà. Mais après, on peut se dire, il y a des choix stratégiques qui sont faits, où tout le monde n'est pas d'accord, etc., qui est comment on fait bouger les choses. Donc on peut trouver, à juste titre, que tout choix stratégique a des effets pervers. C'est-à-dire que tout choix de faire bouger ici conforte là. Donc, on est bien d'accord. Donc, après, ce sont des appréciations politiques. Mais en tout cas, manifestement, des tas de gens se sont mobilisés en France contre, c'est bien qu'ils avaient le sentiment que ça faisait bouger quelque chose. C'est ça un indicateur. C'est-à-dire, le moment où tout le monde est content, on peut se dire, je ne suis pas en train de faire bouger les choses. Le moment où tout le monde est mécontent, il y a des chances que... Donc il se pourrait très bien que l'intérêt politique de cette question se dissolve maintenant. Ensuite, sur la question sur, entre autres, une comparaison internationale, pourquoi ça bouge dans des endroits différents, etc. Pour ma part, j'ai essayé de développer le concept de démocratie sexuelle qui me paraît être une manière de comprendre le fait que ce n'est pas simplement dans tel ou tel pays, mais que c'est devenu, d'une part, une logique démocratique, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser l'égalité comme un argument fort, y compris l'égalité entre les sexualités, ce qui place sur la défensive tous ceux qui sont contre. C'est une première chose. Et la deuxième chose, ce n'est pas seulement une logique démocratique, c'est aussi une rhétorique démocratique. C'est-à-dire qu'une manière de s'afficher moderne et démocratique, c'est de dire « je suis pour tout ça ». C'est vrai pour les individus et c'est vrai aussi pour les pays. Donc, par exemple, moi, je suis intéressé de voir les différences d'un pays à l'autre. Et pas tant par rapport à l'Espagne, par exemple, parce que, en un sens, on s'est souvent étonné de l'Espagne en se disant « c'est un pays catholique ». Moi, si je regarde les pays catholiques, les plus catholiques qui se sont ouverts au mariage pour tous, ce sont l'Argentine, l'Espagne et le Portugal, c'est-à-dire trois pays de dictature récente dans lesquels l'Église...
Excuse-moi.
C'est-à-dire les trois premiers pays qui aient ouvert le mariage aux couples de même sexe comme des pays très catholiques ont été les pays où l'histoire de la dictature récente affaiblissait le poids politique de l'Église catholique. Donc je pense que la question culturelle est compliquée par la question politique. Après, on voit bien que, par exemple, en Amérique latine, c'est une des manières de dire nous sommes du côté de la modernité, y compris on voit des gouvernements très conservateurs qui sont prêts à s'ouvrir sur ces sujets, parce que c'est une manière de dire on est du côté de l'Occident, en quelque sorte. Et cette conception, disons, rhétorique de la démocratie sexuelle joue un rôle très important aujourd'hui. Donc on est pris entre les deux, entre la logique démocratique et la rhétorique démocratique. Mais on le voit bien dans le fait que, par exemple, en Amérique latine, des pays qui ouvrent, comme l'Argentine, le mariage aux couples de même sexe, n'ouvrent pas pour autant les droits reproductifs, et en particulier en matière d'avortement. Ça veut bien dire que c'est devenu un emblème, là aussi, comme en France, c'est devenu un emblème de gauche, internationalement, c'est devenu un emblème de modernité démocratique.
Merci. Donc moi, j'ai une question pour les trois intervenants. Je ne sais pas, Eric Fassin, s'il y a le temps de répondre. Est-ce que dans vos travaux, vous faites la distinction entre les revendications liées à la PMA et la GPA ? Merci.
Comme je vais partir, ce n'est pas la peine que j'essaye de donner une réponse. Je n'ai rien de très intéressant à dire, donc d'accord. Ça tombe bien. Je vous remercie beaucoup et je suis désolé de disparaître de la sorte. Merci.
En tout cas, il va de soi que ce que j'ai dit à propos des discussions avec Eric valait en sa présence. Je vous propose qu'on ne poursuive pas ce débat en son absence, ça ne me paraîtrait pas fair play. Mais ça serait, c'est moi que ça gênerait, je crois. On peut discuter d'autres choses, mais... Pas d'un absent.
Poussé, oui.
Non, je trouve que ça ne serait pas fair play en son absence.
S'il y a d'autres questions, justement, directement liées à... Oui, voilà.
Une question qui se lie au débat sur la GPA. Oui. C'est bon, on... si en soi l'idée me plaît assez de déconstruire l'image de la mère, l'image unique de la mère qui est on met au monde, on est de facto la mère, me plaît, je m'interroge et en même temps c'est une question que je vous pose sur les conditions matérielles d'existence que peuvent recouvrir ces différentes conceptions qui arrivent et notamment des rapports sociaux qu'elles peuvent mettre en jeu. Plusieurs recherches ont montré que voilà, le classe et race sont vraiment... Voilà.
Oui, tout à fait. La GPA, c'est vraiment un bon exemple, justement, de ces regards différents qu'il faut porter sur le même objet, à la fois le voir de très loin, de près, etc. Donc, déjà, répondre aussi en partie à la première question, je crois que c'est un des grands enjeux, aujourd'hui, d'un point de vue de description,
de savoir si on admet, comme le fait l'OMS, que la GPA est une des techniques, on peut la réprouver, mais c'est, elle participe de la procréation médicalement assistée avec don, ce qu'affirme l'OMS, ou si au contraire, elle n'a rien à voir avec elle, ce qu'affirme la position française, par exemple, et le droit français. Déjà, c'est important d'un point de vue descriptif. Et on peut se positionner, qu'on soit pour ou contre tout ça. Vous voyez, ce n'est pas la question. Pourquoi est-ce que l'OMS place la gestation pour autrui parmi le tout que forme la procréation médicalement assistée avec don? D'une part, parce qu'elle a une description précise de GPA. C'est-à-dire elle distingue la gestation pour autrui de la maternité pour autrui. La gestation pour autrui, c'est quand une femme porte pour un couple ou une personne seule, mais en général c'est pour un couple, soit un couple gay, soit un couple hétéro, un enfant qui n'est pas, à partir d'une fécondation in vitro, on a implanté un embryon qui n'est pas donc l'embryon de cette gestatrice. C'est ça la gestation pour autrui. On fait un don de gestation, ce qui est différent de la maternité pour autrui d'avant la fécondation in vitro, où la femme était inséminée par le sperme du futur père, et où c'était son propre embryon qu'elle portait et dont elle accouchait et qui était remis ensuite. Donc pour l'OMS, c'est très important de faire la distinction des deux, en disant que ce n'est pas du tout la même chose, ce qui n'est pas facile à comprendre en France, puisque, excusez-moi, mais justement, un des sujets, vous pourrez lire l'article de Sylviane Agazinski dans Libé aujourd'hui, justement, certains disent, nous refusons absolument de cette distinction, de la reconnaître comme valable. Et donc c'est à la fois un sujet de description et un sujet politique déjà. Donc ça c'est première chose. Donc pourquoi est-ce que moi je suis amenée à donner raison à l'OMS? C'est pas parce que c'est l'OMS ou je sais pas quoi. C'est parce que j'ai essayé de développer dans un livre Des humains comme les autres une description socio-anthropologique de ce que c'est que la procréation assistée avec un don. En disant finalement c'est une action collective à plusieurs personnages. Et dans ces personnages, il y a évidemment un couple qui sollicite un don. Ce don peut être un don de sperme, un don d'ovocyte, un don d'embryon et dans les pays qui l'autorisent, un don de gestation. Une personne, voire deux, qui donnent de leur capacité procréatrice en n'ayant aucune intention de devenir parent, mais pour permettre à d'autres de le devenir. Et donc, mû par des raisons diverses, il pourrait y avoir le besoin économique. Hein, et encore une fois, on ne porte pas de jugement, c'est bien ou mal. Ces personnes donnent de leur capacité procréatrice pour permettre à d'autres d'être parents ou vendent. Donc, on pourrait discuter. Et puis, entre ces personnes, il y a les intermédiaires des médecins et il y a, évidemment, l'organisation du droit. Donc, dans cette approche, ce qui est important, c'est que c'est une nouvelle façon de mettre des enfants au monde. C'est ça que la sociologue, socio-anthropologue historique peut voir, c'est-à-dire cette collaboration organisée par le droit, par l'État, par la médecine, où plus de deux personnes s'y mettent ensemble pour coopérer, pour faire un engendrement dans lequel, par hypothèse, le couple parental d'intention ne sera pas le couple qui procrée tous les deux, mais un couple où l'un procrée et l'autre pas. Donc un couple, très, par rapport au débat justement sur la naturalisation, si vous voulez, un couple qui valorise à la fois, simultanément, insécablement, indivisiblement, les deux valeurs que le débat social oppose toujours. C'est un couple qui valorise le fait de transmettre la vie. C'est clair. Ils n'ont pas choisi l'adoption, ils ont choisi la procréation médicalement assistée. Et en même temps, ce même couple qui valorise le fait de devenir parent en transmettant la vie, en étant géniteur, ce même couple valorise le fait de devenir parent sans transmettre. Donc vous voyez, ce couple ne se laisse pas prendre dans les alternatives dans lesquelles on nous demande de vous situer. Vous êtes pour le parent biologique ou pour le parent social. Ils sont pour les deux indissociablement. Et dans les couples gays, ça va très loin, puisque ça peut aller jusqu'à ne pas savoir lequel des deux est le biologique, lequel des deux ne l'est pas, etc., pour justement que ces deux valeurs puissent être vécues comme indivisibles. Voilà. Donc, votre question. Alors, après, votre question, elle va porter sur les conditions de réalisation de la gestation pour autrui. Je pense que ça, c'est un débat absolument essentiel, parce que nous sommes dans un univers mondialisé, où il y a des gens qui sont en recherche d'enfants, en mal d'enfants, on pourrait dire. Il y a de la pauvreté, il y a des mafias, il y a des appétits qui sont aiguisés, il y a des trafics. Donc cette question n'est pas nouvelle. J'essaye d'aller vite. Elle n'est pas nouvelle. Elle s'est posée pour l'adoption il y a déjà 15 ou 20 ans. On n'imagine pas, avec la mondialisation, l'horreur des trafics d'enfants qui se sont développés dans le monde. C'est l'unique fois dans ma vie d'enseignante où j'ai dû interdire à une étudiante de poursuivre, c'était son master, à ce moment-là, ça ne s'appelait pas le master, ça s'appelait comment ? Son DEA. C'était une de mes étudiantes à Saint-Pétersbourg qui faisait son DEA sur le développement de l'adoption internationale à Saint-Pétersbourg à partir du moment où les Gorbatchev avaient ouvert au-delà des pays frères. Bon. Elle a découvert de telles abominations mafieuses qu'elle a commencé. Bon. Des enfants enlevés à leur mère un peu junkie en pleine rue, etc. Bon. Elle a été menacée de mort et j'ai dû arrêter. Oui. Donc, les trafics d'enfants, donc, ça existe. Et aujourd'hui, on peut dire, avec un degré quand même moindre dans l'horreur, il y a des trafics de femmes, de ventre, etc. Et donc, vous avez tout à fait raison de vous inquiéter de l'exploitation qui peut être faite. Et tout le monde s'en inquiète. C'est pas un sujet de clivage. Le sujet de clivage ne porte pas sur ça, parce que ça, tout le monde est d'accord, qu'il faudrait lutter efficacement, mettre en place des outils internationaux, etc. Le point sur lequel il y a des accords n'est pas celui-là, mais c'est est-il possible qu'on regarde ces GPA instrumentales, exploitantes, ces trafics de vente, comme j'appellerais, il existe des formes qui soient au contraire tout à fait en accord avec nos valeurs, de même qu'on regarde des trafics d'enfants, il y a des adoptions internationales que nous considérons comme tout à fait éthiques, valorisantes, etc., et pas simplement comme une forme, comment dire, euphémisée, par laquelle les Blancs iraient s'approprier, faire de la prédation dans des pays pauvres. Oui. Voilà, c'est ça le sujet, je pense. Et il faut essayer de l'avoir à partir d'enquêtes et de descriptions. Donc, l'important pour nous en sciences sociales, c'est qu'il y ait des enquêtes. Donc, il commence à y en avoir. Il va y avoir des thèses qui vont être soutenues. Parce que pour le moment, en France, on s'empaille sur des fantasmes, sur des mythologies, mais très peu sur des faits.
Merci. Voilà. Peut-être, Louise, déjà, vous avez quelque chose à dire sur la question
Sur la GPA, c'est vrai que c'est vraiment l'horreur pour eux.
Non, c'est sur cette question, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que je parle de la PMA et de la GPA et que je distingue les deux. Moi, je le fais, en fait, dans les entretiens. J'essaye, effectivement, de distinguer tout. Et surtout que GPA, ça ne veut pas dire la même chose selon que, effectivement, ce soit une GPA, comme vous dites, éthique, ou selon qu'il y ait marchandisation, ou selon que ce soit une mère porteuse, ou selon que la mère, dans le cadre d'une maternité pour autrui, sa propre ovule. Donc ça n'a rien à voir. Mais je me rends bien compte, quand je fais les entretiens et quand je les conduis, que généralement, les personnes, je ne sais pas comment le dire autrement, que foutent tout dans le même sac. Elle ne voit pas trop la différence et parfois même je leur dis PMA ou GPA ou qu'est-ce que c'est, pourquoi, enfin, je suis obligée moi-même de donner des définitions et puis suite à quoi là elles me répondent
et c'est un peu logique, vous êtes d'accord?
Oui.
Parce que ça prouve bien que la PMA c'est 5% des naissances et la PMA avec don c'est 5% de ces 5%. Oui. Donc c'est un problème pour les sciences sociales quand un pays entier s'enflamme sur des cas qui sont très minoritaires et que les gens n'ont pas vu, et donc sur lesquels les fantasmes sont beaucoup. Et je pense qu'ils fantasment beaucoup à la Manif pour tous, parce que quand il y a dans leur entourage des GPA, on ne doit pas leur raconter.
Et puis les GPA dont ils ont entendu parler, le discours qu'ils reprennent, c'est celui qui est diffusé par la Manif pour tous de façon officielle. Ils font des jolies petites vidéos explicatives sur le site internet qu'on peut aller regarder. De 3 minutes. Pareil sur la théorie du genre aussi, c'est assez merveilleux à voir. Et voilà, donc le discours qu'ils ont sur la GPA, c'est le seul qui est distinct de l'homoparentalité. Et s'ils l'ont, c'est justement parce qu'ils ont écouté ce que le collectif leur a donné comme information. Mais,
d'accord. Voilà. Il y a pas d'autres questions. Après là.
Donc, je me permets de rebondir sur ce que vous, sur votre réponse. En fait, vous m'évoquez quelque chose de l'ordre de l'illégalité. Moi, je vous parle. En fait, ma question portait plus sur les formes légales de GPA. Et, je pense notamment aux travaux de Laurent Stein, qui, alors, elle n'est pas sur la GPA, elle est sur la fécondation in vitro, mais qui montre concrètement que celles qui vont être les corps, les corps qui sont utilisés pour mettre au monde dans ces techniques-là, c'est pas n'importe quel corps, c'est pas n'importe quelle femme. Pour le dire vite, c'est des femmes de classe populaire, noire, arabe, c'est pas n'importe quelle femme. Et c'était en ça que Voilà, c'est ça en fait. C'est que si je suis pas contre l'idée d'ouvrir les conceptions de la mère, enfin, il y a socialement, c'est pas distribué de façon égale. Et je pense que, enfin, c'est un discours qu'on peut tenir quand on est femme blanche de classe supérieure.
Non, c'est pas la question. On peut avoir la même. Vous êtes blanche de classe supérieure comme moi. C'est pas le problème. D'abord, c'est que on a beaucoup de mal à savoir qui fait des GPA. Et par exemple, vous regarderez le film de Delphine Lance, donc une doctorante qui va publier bientôt sa thèse. Elle est allée en Ukraine, etc. Donc elle est allée voir sur le terrain. Elle a fait un film. Il y a 8 gestatrices qui témoignent. Bon, on n'a pas l'impression que c'est justement des femmes particulièrement pauvres, particulièrement exploitées, etc. Moi, j'ai fait venir dans mon séminaire pour montrer aux étudiants justement qu'il faut toujours aller à la source sur des sujets très controversés où les gens parlent, ils ont entendu parler. Bon, c'est une avocate qui est venue. Elle avait porté pour un enfant pour sa cousine. Et en général, et donc ça, c'est un aspect dont on parle peu. C'est vrai qu'il y a les GPA qui donnent lieu à une rétribution. Alors après, il y aura des discussions sur comment on appelle ça. Et puis, il y a des GPA familiales. Les GPA familiales, on en parle peu. Dans ce cas-là, bon. Voilà. Donc, je partage votre inquiétude. Si les corps des femmes pauvres servaient uniquement... Voilà. Non, mais encore une fois, il y a cette question internationale. Mais par exemple, si on pourrait imaginer, je prends cet exemple, qu'on autorise la GPA sans rétribution en France, puisqu'on ne rétribue pas les dons en France, il n'est pas du tout sûr qu'on ne verrait pas des femmes de classe supérieure porter des enfants. En tout cas, je le dis par mesure de provocation, je le vois. Connaissant bien les GPA et voyant les aventures humaines que c'est, je regrette vraiment de ne pas avoir 30 ans pour pouvoir en faire une. C'est peut-être aussi... Il y a peut-être des effets qui sont liés au cadre légal qui ne rend pas certaines choses possibles. Mais enfin, voilà. Donc, vous avez raison d'attirer l'attention sur ce point. Je partage l'inquiétude. Mais on pourrait imaginer de réglementer les GPA comme on réglemente d'autres types de dons, les dons d'organes, etc., par exemple, bien que ce ne soit pas les mêmes... Ce n'est pas tout à fait comparable. Enfin, je partage votre inquiétude, mais je crois que c'est en partie un effet des comptages qui sont très difficiles et du fait que les GPA amicales ne sont pas comptabilisées.
Merci beaucoup. Donc, il y a une question par... Oui.
Bonjour. Donc c'est une question pour tous les intervenants et c'est un peu une question de curiosité parce que je ne suis pas familière du sujet. Mais je voulais vous demander comment est-ce que vous expliquez que, paradoxalement, à la dénaturalisation de la filiation, on observe aussi le retour d'un discours qui promeut la nature dans la parentalité, on va dire, pratique, c'est-à-dire dans le soin apporté aux jeunes enfants et particulièrement aux nourrissons et à la maternité. Donc je voulais savoir comment est-ce que vous interprétez ça, et notamment le fait que ces deux discours qui paraissent contradictoires peuvent être portés par les mêmes personnes.
Moi, je pourrais répondre très rapidement. Pour moi, ce qui est dénaturalisé, c'est un modèle qui tombe en désuétude. C'est-à-dire, ce à quoi nous assistons, c'est la dénaturalisation du modèle matrimonial hétérosexuel hiérarchique que symbolisait le code, pour moi, au sociologue de droit, le code Napoléon des années 1804, et qui a été progressivement mis en morceaux. Mais quand une dénaturalisation intervient, c'est qu'une renaturalisation intervient aussi. De ce point de vue-là, je suis assez sceptique. C'est-à-dire, je pense que toute société naturalise ses conventions, donc nous assistons à des formes nouvelles de naturalisation. Simplement, elles ne nous apparaissent pas parce que nous y adhérons. Nous y adhérons, et donc, et le travail des sociologues, c'est justement de dire... ce n'est pas parce qu'on adhère que le problème se pose le moins. Et donc, le fait que, comme vous l'avez dit, voilà, les conseils de, qu'on appelle ça, pour les bébés, là, de puériculture, la psychologie de l'enfant, la psychologie... Bon, tout ça, c'est par là que nous énonçons des normes, des règles, dont les gens ont l'impression qu'elles peuvent leur suffire à se passer d'institution.
Donc voilà, je crois qu'il n'y a, a jamais moins de naturalisation. Ce n'est pas très grave. L'important, c'est pas, on ne peut pas l'empêcher. C'est de cultiver dans une démocratie la conscience de ça. Je suis assez bourdieusienne en disant ça, mais je le découvre.
Merci. Donc il y a deux questions ici.
Bonjour, merci. Je n'étais pas dès le début du débat. Et alors, juste pour témoigner une enquête qu'il est en train de faire par un colloque, c'est vrai que les débats tels que, abordés en France sur les questions de mariage étaient complètement politisés, clivage droite et gauche. Tandis que là, l'enquête qu'il est en train de faire, mon colloque, il est en train de montrer un sondage auprès d'à peu près, 200-250 personnes. Alors là, il a compris que l'enquête montre que les débats dépassent largement les clivages politiques. C'est-à-dire qu'on a des individus qui sont tendance gauche, on a des individus qui sont tendance droite, et même centre, etc., etc. Ils revendiquent le mariage classique, c'est-à-dire qu'entre un homme et femme, ils revendiquent en tant que culture générale identité sociale, culturelle, quoi, quelle que soit la couche. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette... Oui,
il y a une deuxième juste question.
Bonjour, moi je voulais juste rebondir sur la question de la rétribution économique et des inégalités. Le corps des femmes qui sont porteuses, des mères porteuses, sont effectivement plus souvent des femmes pauvres, noires, dans les pays étrangers, en Inde, etc. C'est tout un très vaste débat. Je ne pense pas qu'on ait le temps du tout d'entrer là-dedans, mais je voulais juste, je trouverais dommage qu'on évacue tout ça en deux minutes, en disant, sous forme de bons principes, il faut arrêter de rétribuer ces grossesses, ces mères porteuses, parce que sinon, on ne fait qu'exploiter des femmes pauvres. Je pense que le problème, il est beaucoup plus large que ça. La question, c'est la question, pourquoi est-ce qu'il y a des femmes pauvres et des femmes riches? Et il faut peut-être juste se dire, laissons les femmes pauvres aussi une certaine autonomie dans la gestion de leur pauvreté.
Ça fait partie des débats. Nous allons organiser un grand colloque sur la GPA l'année prochaine. Et il y a maintenant beaucoup de travaux sur les Indiennes, etc. Et c'est une vraie question que de ne pas se contenter de toujours les mêmes formules les concernant. Je suis tout à fait d'accord.
Sur la première question.
Oui, moi j'ai juste une question. Cette enquête, elle a été faite... Oui, mais auprès de qui, en fait?
À l'Université de Toulouse, par un collègue, il est en train de faire cette enquête. Il est en train de montrer dans l'enquête, le clivage dépasse largement...
Oui, mais enfin, c'est qui sont les personnes qui sont interrogées, en fait?
N'importe qui.
Je pensais que c'était, par exemple, des personnes de la Manif pour tous ou autre.
Non, n'importe qui.
Ok. Effectivement, donc, si on ne se concentre pas sur la Manif pour tous, je pense que la représentation du mariage traditionnel dépasse largement une question politique et qu'on peut tout à fait être de gauche et avoir une image traditionnelle du mariage. Pour ce qui est de la Manif pour tous, je dois bien admettre que la majorité sont de droite, centre-droite, ils se disent de centre-droite jusqu'à l'extrême-droite, et je n'ai absolument rencontré personne de gauche. Donc je ne peux pas... j'ai que 25 personnes, donc c'est absolument pas représentatif, mais c'est vrai que c'est 25 personnes au hasard, et qui toutes sont à ce niveau-là. Après, j'ai plus l'impression... que ce soit la question religieuse qui prenne le pas sur la question politique. Moi, c'est mon sentiment. Je ne sais pas après comment s'articulent les deux versants. C'est à voir, encore une fois, c'est en cours de recherche.
Le débat tel qu'il a été au Parlement, parce que c'était demandé par le PS, etc., c'était largement politisé, mais combien de personnes ils ont manifesté dans la manif pour tous? On a une idée?
Combien de personnes ont manifesté en tout? Entre les chiffres...
Ce n'est pas du tout représentatif par rapport à la population française.
Je ne sais pas combien de personnes en tout ont manifesté.
Ok, merci.
Beaucoup l'avaient fait d'ailleurs.
Questions, les dernières questions. Les dernières questions. Sinon, on clôt le débat. Nous remercions donc beaucoup Irène Théry, Lise Desjans et Eric Fassin qui n'est pas là. Et nous vous remercions aussi pour votre présence. Merci bien.